Tendance RH en partenariat avec JobSphéric.
Bonjour, bienvenue dans Tendance RH, l'émission qui ouvre de nouvelles perspectives sur des RH modernes. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathias Dufour, président de l'association Le Plus Important. Bonjour Mathias.
Bonjour Christelle.
Alors Mathias, pouvez-vous nous présenter tout d'abord pour commencer, pourquoi avoir créé cette association et ses objectifs? Qu'est-ce qu'elle ambitionne?
Alors, hashtag Le Plus Important, c'est à la fois un think tank et un action lab, innovant et indépendant, qui a pour objet de redonner du pouvoir d'agir à chacun et de promouvoir une société plus inclusive. Nous sommes une communauté engagée d'un peu plus de 300 experts et professionnels de tous horizons. Nous favorisons le développement des capacités et des compétences des classes moyennes et des plus fragilisées pour relever les défis sociaux de l'économie numérique. Nous avons d'un côté un think tank qui propose des solutions concrètes aux décideurs publics et privés et un action lab qui accompagne en pro bono les acteurs de l'ESS dans leur croissance. L'idée, c'est vraiment de développer les capacités et les compétences des gens peu qualifiés, des professionnels en risque de déqualification et d'armer la prochaine génération pour faire face pour trouver leur place sur le marché du travail.
D'accord. Et vous avez pour habitude aussi d'organiser beaucoup de conférences, de débats, notamment à l'Assemblée nationale aussi, sur ces sujets phares.
Oui, nous sommes très focalisés sur le fait de faire des propositions. Nous en avons déjà plus de 200 et ensuite de les porter, qu'elles soient le plus concrètes possible et de les porter auprès des décideurs publics et privés, notamment via des colloques. On en a fait 4 ou 5 à l'Assemblée nationale. On en a un prévu au Sénat. On en a fait au Collège de France, etc. Et ainsi qu'un certain nombre de tribunes.
Alors là, vous venez de publier un ouvrage, donc Désubériser, reprendre le contrôle, donc aux éditions du Faubourg. Et là, donc, vous faites un peu une synthèse de l'expérience Uber, de l'ubérisation à outrance. Et donc, vous en tirez plusieurs leçons. Donc, moi, j'aimerais que vous nous disiez dans un premier temps quelles sont pour vous les opportunités de ces nouvelles plateformes et un petit peu aussi les failles ensuite. Et vous, finalement, quelles seraient vos préconisations? Donc, d'abord, les opportunités. Que nous a montré, en fait, l'apparition d'Uber et cette ubérisation de l'économie?
Alors, le livre s'appelle « Désubériser, reprendre le contrôle ». On ne parle pas d'Uber en tant que tel. On parle de l'ubérisation, c'est-à-dire de la plateformisation de l'économie et de ses impacts sociaux. Donc, ce n'est pas Uber en particulier. Nous ne sommes pas contre Uber. Comme vous le soulignez, nous sommes les premiers à reconnaître les effets positifs de la plateformisation, outre la qualité des services qu'ils apportent aux usagers et aux clients. Il y a deux types d'avantages principaux. Le premier, c'est de créer de l'activité et de l'emploi peu qualifié. Et aujourd'hui, il y a peu de gisements d'emploi peu qualifié en France. Et le deuxième, c'est d'apporter de l'autonomie. Il y a un ensemble de professionnels aujourd'hui auxquels les contraintes du salariat ne conviennent pas et qui sont satisfaits de trouver des conditions de travail avec plus d'autonomie que ce que l'offre le salariat. Ça, c'est les avantages principaux.
Oui, parce qu'en fait, le pendant de l'économie, c'est aussi moins de filet social, moins de protection aussi.
Donc, du coup. C'est ça. Alors, le problème fondamental, il vient d'une espèce de fiction juridique. Alors, attention, on ne parle pas, il y a différents types de plateformes. Amazon, Facebook sont des plateformes. Nous ne parlons pas des plateformes publicitaires ou nuagiques comme Amazon ou des plateformes industrielles ou même des plateformes de première demande comme Netflix ou Spotify. On parle des plateformes comme Uber, Lyft, Deliveroo qui tirent leur gain de productivité d'intermédiation en temps réel entre une offre et une gain de demande de travail. Voilà. Et le problème, c'est que en théorie, il n'y a aucun lien entre le travailleur et la plateforme, et le travailleur est purement indépendant. En réalité, le travailleur a quand même très peu de marge de manœuvre quant à l'organisation de son travail, même s'il en a plus que dans le salariat, notamment quand on temps de travail. Mais donc, l'autonomie est un peu en partie fictive, et de l'autre, il y a une forme de dépendance économique. Donc, il y a très peu de droits et une forme de dépendance économique, alors même qu'ils ont toutes les contraintes liées et tous les risques liées aux indépendants. Donc, comme vous l'avez souligné, très peu de protection. Et ça, ça ne peut pas continuer.
D'accord. Donc, en fait, pour vous, en fait, cette ubérisation de l'économie nous a permis aussi peut-être d'ouvrir une nouvelle voie où il faut tirer un petit peu des leçons de ce qui s'est passé et voir comment aujourd'hui on peut arriver à mêler un petit peu et trouver une nouvelle voie, un nouveau modèle social qui pourrait satisfaire finalement tout le monde. C'est de mêler un peu l'autonomie et la protection, essayer de favoriser le dialogue social, le lien social entre les travailleurs et ces plateformes. Donc, quelles sont du coup les leçons que vous en tirez, puis les préconisations que vous faites?
Alors, d'abord, on parle encore d'un nombre relativement restreint de professionnels. On parle de maximum 200 000, 300 000 professionnels. C'est peu, mais c'est emblématique des évolutions du travail. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'en préoccuper, d'autant que le mot ubérisation, il fait peur à tout le monde et il ne faut pas que les Français aient l'impression que s'ils sortent du salariat, ça va être le Far West. Donc, il faut traiter ces nouveaux modes de travail et apporter des protections qui vont bien. Nous avons globalement trois types de recommandations. La première, c'est ce qu'on appelle la normalisation, c'est-à-dire les plateformes sont des entreprises qui doivent appliquer la réglementation du secteur dans lequel elles opèrent. Uber est une entreprise de transport, ce n'est pas une entreprise technologique et à ce titre, elle doit appliquer les mêmes règles que les entreprises de transport. Ça n'est pas toujours le cas aujourd'hui, or ça devrait l'être. Ça, c'est la première chose de la normalisation. La deuxième chose, c'est, comme vous l'avez suggéré, d'améliorer les protections et le modèle social des travailleurs des plateformes. Nous pensons que il faudrait promouvoir un panier socle de droits. Les contraintes ne sont pas les mêmes que ceux des salariés et donc les droits ne doivent pas être les mêmes. Et donc nous ne sommes pas favorables à une requalification systématique en salariat. En revanche, il faut plus de protection.
Ce qui avait été fait par les juridictions, hein, des contrats avaient été requalifiés en contrats de travail.
Certains, oui, il y a un arrêt très important qui a été pris en début d'année par la Cour de cassation qui a requalifié en salariat le contrat d'un travailleur Uber, mais c'était un contrat qui datait de 2015, qui était très spécifique, il était très très lié à Uber, beaucoup plus que le travailleur lambda, mais il envoie un message, il envoie un signal comme quoi la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Et nous pensons, nous, que dans ce panier socle de droits, il doit y avoir des droits à la protection sociale, mais aussi des droits de représentation. Il est important qu'il puisse y avoir un dialogue social entre les plateformes et les travailleurs, que ceux-ci soient représentés, qu'il y ait une négociation. Et parce qu'on pense que de ce dialogue social va naître progressivement des normes, des règles, des droits qui vont constituer une forme de modèle spécifique qui soit ni le statu quo actuel qui n'est pas satisfaisant, ni le salariat qui n'est pas adapté non plus. Et c'est par le bas qu'est sur l'avenir, avec le rôle des pouvoirs publics pour encourager, voire rendre obligatoire des négociations, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. La troisième recommandation, pardon.
Oui. Voilà, c'est ça, ça serait promouvoir les plateformes virtuelles finalement. Hein.
Alors, c'est la vraiment troisième recommandation, ça serait de promouvoir des plateformes virtuelles, c'est exactement ça. Par exemple, des plateformes coopératives, c'est-à-dire qui appartiennent à leurs travailleurs. Alors, il y a déjà un certain nombre d'exemples qui existent dans un certain nombre de domaines. Par exemple, Resonate, qui est une alternative à Spotify. Il y a Mobicop, qui est une alternative à BlaBlaCar. Aux États-Unis, il y a Rideaustin, qui est une plateforme VTC. Et les pouvoirs publics ont la possibilité d'aider ces plateformes. Après, plus largement, nous pensons que les pouvoirs publics peuvent s'emparer du modèle technologique des plateformes pour promouvoir de nouveaux services publics. Par exemple, tout ce qui a trait à la mobilité locale, les pouvoirs publics peuvent utiliser des données, mettre au service du public des données qui aujourd'hui même sont privées. Quand on pense à Waze, c'est des données qui sont d'intérêt général. Donc il y a un travail à faire pour mettre à disposition du public des données privées et utiliser ces données pour mettre en place de nouvelles plateformes, quitte à ce qu'elles soient opérées par le privé. Il ne s'agit pas que le public fasse lui-même, mais mettre au service de l'intérêt général, la technologie des plateformes. Voilà.
Mais vous n'avez pas peur là que les citoyens ne soient pas d'accord? On a vu avec l'application Stop Covid, ça n'a pas fonctionné, hein. Ça n'a pas eu l'adhésion escomptée.
Alors, au contraire, enfin, il faut que les pouvoirs publics s'emparent un peu plus de ce sujet de la réglementation des algorithmes et du droit social des algorithmes. Il faut que les travailleurs aient un droit de regard sur les algorithmes, que les pouvoirs publics aient un droit de regard sur les algorithmes. Et c'est aussi comme ça qu'on redonnera de la confiance. Aujourd'hui, il y a un peu l'impression que tout ça est fait dans notre dos et il y a un besoin de reprendre le contrôle. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons utilisé cette expression dans le titre de l'ouvrage, car directionnellement, c'est essentiel. Bien évidemment, il y aura des questions de confiance, mais ces questions de confiance, elles ne doivent pas conduire à abandonner le terrain aux données, mais au contraire, à donner au public l'impression et la réalité qu'il reprend le contrôle sur ces données, ce qui permettra de mieux exploiter ces données pour développer des nouveaux services.
Bon, mais merci beaucoup, Mathias. Donc, désubériser, reprenons le contrôle sur notre destin collectif, hein. Et sur les nouveaux modèles sociaux à mettre en place. Merci beaucoup, je vous remercie de votre témoignage.
Merci Christine, excellente journée à vous.
Et à très bientôt sur les ondes. Au revoir, merci.
Au revoir.
Tendance RH en partenariat avec Jobsphérique.